Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Jean-François Lépine sera avec nous ce matin. On va faire le point sur la guerre entre Israël et le Hamas, le Ramadan qui s'amorce dans la controverse. D'ailleurs, vous avez beaucoup de musulmans qui tentent de se déplacer à l'intérieur du territoire israélien, notamment à Jérusalem, mais ailleurs aussi. À l'occasion du Ramadan, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui se déplacent pour les prières et il y aurait des opérations militaires de contrôle de foule à coups d'espèces de bâtons pour tasser les pèlerins. Tout ça s'ajoute au fait que la famine s'installe, plus d'un demi-million de Gazaouis qui n'ont pas de nourriture. Il y a cette photo, on la voit dans la presse ce matin, mais je l'ai vue en fin de semaine dans plusieurs journaux, de cet enfant de 10 ans qui est sur un lit d'hôpital. Il se trouve à Rafah et il est complètement émacié et il est décédé peu de temps après. Donc, les transports de nourriture, cette chaîne alimentaire est toujours aussi difficile à établir. On sait que les Américains veulent aménager une infrastructure, mais ça va prendre du temps. Et les convois sont souvent bloqués dans différents coins de Gaza. Donc, difficile de pouvoir nourrir la population. Et puis, le président Biden a fait une sortie en disant en fin de semaine que le premier ministre Netanyahou est la source des problèmes, qu'il cause plus de problèmes qu'autre chose et qu'il ne contribue pas à amener un climat de paix entre les Palestiniens et Israël. Évidemment, Netanyahou s'est défendu en disant qu'au contraire, il traduisait l'opinion publique. Mais regardons quand même les faits où Biden a probablement raison sur plusieurs données. Au total, quand vous regardez la situation, je parlais de malnutrition, de famine, de femmes qui accouchent avant terme et des bébés meurent, les difficultés d'approvisionnement. Il y a eu cette terrible attaque du Hamas, monstrueuse, le 7 octobre. Il y a encore des gens qui sont détenus en otage. On avait des experts qui ont fait des enquêtes, qui ont conclu qu'il y avait eu probablement même des otages qui avaient été victimes d'agressions sexuelles. On a parlé de Palestiniens qui ont aussi été victimes d'agressions. Alors, ce que ça montre, c'est que vous avez quoi? 30 000 Palestiniens, c'est ce que prétend d'ailleurs les autorités de Gaza, là. Plus de 30 000 Palestiniens qui sont morts depuis le début de ce conflit. Il y a environ 1 200 Israéliens qui ont été tués dans l'attaque du mois d'octobre. Et ce que Biden dit, il reconnaît à Israël le droit de se défendre, à prendre des mesures, mais de le faire de façon plus prudente en protégeant les civils. Malgré le discours, il y a des civils qui meurent tous les jours et ça, quand un conflit s'étire, on a tendance à l'oublier. Et puis, entre-temps, en Haïti, le représentant du Canada, l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, Barbary, s'est rendu en Jamaïque. Il y a une rencontre au plus haut sommet pour tenter de trouver une voie de passage. Rappelons les faits. On a un premier ministre qui peut pas rentrer dans son pays, qui est stationné à Porto Rico, Ariel Henry, qui n'a pas vraiment de légitimité. Il n'y a pas eu d'élection depuis quelques années en Haïti, et ce sont des gangs armés, différents groupes qui ont pris le contrôle d'une bonne partie de la capitale, Port-au-Prince. Et là, on tente de trouver une solution, dire au premier ministre de quitter, avoir un gouvernement de transition. Et M. Ray a été très clair, il n'y aura pas de soldats canadiens déployés en Haïti pour ramener la paix. Il y a une force multinationale, mais surtout composée de membres du Kenya. D'ailleurs, le premier ministre Henry rentrait du Kenya quand on l'a redirigé vers Porto Rico. Et entre-temps, ben, on sait qu'il y a eu cette attaque contre la prison, des milliers de prisonniers qui sont sortis, le port qui est bloqué, l'aéroport est aussi bloqué. Et là, il y a un enjeu aussi de nourriture, de qualité d'eau. Alors, ça devient de plus en plus difficile. Puis, un certain nombre de Canadiens qui demeurent coincés, donc, à Port-au-Prince. Je veux parler un peu de politique ce matin. Parce que demain, c'est le budget du ministre des Finances, Éric Girard, c'est le budget du Québec. Et les attentes sont élevées. Les gens lèvent la main en disant, on a besoin d'argent. Le ministre a pris soin de nous rappeler qu'il y avait un déficit qui serait plus important que prévu. Et je sais que les centrales syndicales n'aiment pas ça. Mais c'est vrai que la facture en éducation et en santé coûte plus cher. On peut appeler ça un investissement si on veut, là. Je comprends tout ça. Mais dans les faits, le déficit sera plus important et la période pour retourner vers l'équilibre budgétaire sera plus longue. Mais j'attire votre attention ce matin sur Québec 125, Philippe Fournier qui fait des prévisions. Et là, il a regardé les sondages, les derniers au fédéral. Et je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je pense qu'on aurait intérêt. D'abord, le phénomène Poilievre qu'on a tendance à démoniser et à marginaliser est pas mal plus fort qu'on pense. Poilievre, d'après les sondages, mène devant Trudeau au Canada par 17, 18 et même 20 points. C'est un gouvernement conservateur majoritaire qui se profile à l'horizon. Est-ce que ça peut changer? Évidemment. On n'est pas en campagne électorale, il peut y avoir plein de facteurs qui jouent. Mais 17, 18, 20 points à l'échelle nationale, c'est une chose. Pour ce qui est du Québec, le Bloc québécois est en tête avec 36 %. 13 points de plus que les conservateurs et les libéraux sont maintenant à 21 %. Disons qu'ils sont à peu près nés à nez, les conservateurs et les libéraux. Au Québec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les libéraux risquent de perdre des sièges. Et dans les analyses, ce sont des projections, on n'a pas une garantie, mais des sièges en difficulté que le Parti libéral du Canada pourrait perdre. On peut penser à celui de Jean-Yves Duclos dans la région de Québec et même François-Philippe Champagne. C'est une projection. Le phénomène, il est très actif dans son comté, ça peut jouer tout ça. Mais ce que je veux vous dire, il y a une écœurantite à travers le Canada, puis ça commence à se traduire au Québec aussi, du gouvernement Trudeau, de ce côté dépensier, ce côté centralisateur, ce côté woke, mais woke de façon, je dirais, péjorative et dogmatique, notamment sur la question de l'immigration, sur le non-respect des juridictions. Alors, ça va pas bien pour Justin Trudeau, et est-ce qu'il va faire la campagne? Probablement parce qu'il est trop tard, mais 20% derrière les conservateurs de Poilievre, c'est quand même quelque chose. Je reviens à ce budget présenté demain à Québec. Pourquoi? Parce que je le sais que les attentes sont grandes. Je fais le tour des manchettes ce matin, vous allez voir. Les gens aimeraient avoir une forme d'aide financière. T'sais. On a besoin de respirer parce que les taux d'intérêt sont élevés. Ça n'arrivera pas, on le sait. Il n'y aura pas de baisse d'impôts, on le sait également. Et là, se profile à l'horizon peut-être une forme d'austérité. Je le sais, il ne faut pas dire le mot. C'est un mot banni. Tellement associé aux libéraux de Philippe Couillard qu'on veut pas l'entendre avec la CAQ. Mais on peut appeler ça, de façon plus recherchée, plus raffinée, une façon d'optimiser les dépenses. Je vous donne quelques exemples ce matin. C'est Radio-Canada qui parle de pression financière sur les établissements du réseau de la santé pour retrouver l'équilibre, parce qu'ils font des déficits. Et entre autres, on pointe du doigt les agences de santé. Le taux horaire des agences privées qui est passé en 5 ans de 56 $ à 128. Quand je vous dis qu'il y a des agences qui sont gloutonnes, ben c'est un exemple. Alors que si vous regardez le taux horaire moyen des employés, des 6, on est autour de 50 $ maintenant. Puis là, il y a probablement les avantages aussi qu'il faut comptabiliser là-dedans. Ça pour vous dire qu'en santé, on est en train de serrer la vis. Voulez-vous un petit exemple de ça? Bien simple. Vous allez voir, ce sont les petites économies qui sont recherchées. Il ne faut pas que ça paraisse. Il ne faut pas que le patient soit trop affecté. C'est le mot d'ordre. Quelqu'un m'écrit, sa belle-mère de 84 ans est dans une RPA et elle reçoit des services du CLSC 3 fois par jour parce qu'elle ne peut pas se débrouiller toute seule. Et c'est moins cher pour l'État qu'elle se retrouve dans une RPA que dans un centre de soins de longue durée, puis il n'y a peut-être pas de place. Alors, cette semaine, appel du CLSC pour dire qu'on est en plein plan de coupure budgétaire et qu'on va lui couper 15 minutes de soins. Et elle avait droit à 2 douches, elle va tomber à 1 douche par semaine. Imaginez là que vous prenez tous ces exemples-là puis que vous en faites la somme, ce sont les montants que Québec cherche à récupérer. Ça paraît pas, ça fait pas trop de bruit, c'est une madame de 84 ans toute seule dans sa RPA, puis elle, bon, tu vas dire, c'est pas grave, 1 douche par semaine, puis c'est pas la fin du monde. Non, non, je vous le dis, ils sont en train de resserrer. Les 6, là, ont le mandat de couper dans les dépenses. Et ça va être de plus en plus le cas. Alors, on verra le budget, évidemment, qui va être présenté demain. Bon, les taux d'intérêt, on va y revenir ce matin parce que c'est un sujet de haute préoccupation pour plusieurs d'entre vous. L'échéance s'en vient, là. Si vous avez pris une hypothèque il y a quelques années alors que les taux étaient très bas, c'est le moment du renouvellement. Puis ça sera d'ici la fin 2024 puis 2025. Donc, c'est sûr que ça va vous coûter plus cher. Et ça se traduit par des hausses de paiement mensuel, puis ça dépend du niveau d'hypothèque, là, puis ça dépend du style de contrat que vous avez négocié. Mais ça peut représenter facilement 200, 300, 400 $ de plus. Il y a des gens qui m'écrivent là qui ont vu le paiement mensuel augmenter de 488 $. Là. C'est beaucoup quand ça s'ajoute au reste. Et donc, c'est quoi la stratégie? On va essayer de regarder ça ensemble ce matin. Mais le Journal de Montréal... On le sait, là, mais c'est un rappel qui est important. La différence entre le taux que la banque vous charge pour votre hypothèque et le taux qu'elle verse aux épargnants fait en sorte que les profits sont spectaculaires et font en sorte que les banques, quand les taux montent, font plus de profits. Est-ce qu'il peut y avoir plus de compétition à un moment donné? Est-ce que c'est possible que... il y a moins de ventes, puis qu'on s'arrache des clients dans certains coins, tout ça est vrai. Mais c'est sûr que c'est payant pour les banques, et c'est sûr aussi que pour le client, ben ce sont des coûts qui sont de plus en plus élevés, et on le voit donc. Et ce matin, c'est intéressant cette analyse qui est faite dans le Journal de Montréal. Maintenant, je veux pas être négatif ce matin, mais disons qu'on prend ça en disant « ça se peut quasiment pas », mais oui, ça se peut. Là, vous savez qu'on va élargir la consigne pour inclure tous les contenants, incluant les bouteilles de vin. Puis on a créé une patente pour s'occuper de ça. Et donc, c'est d'implanter des points de chute au Québec, autour de 200. C'est l'objectif. Et on attend de voir comment ça atterrit. La presse nous dit ce matin qu'on est en retard. Que les lieux de retour qu'on projetait pour la fin de 2023... ont pas été créés. Puis on pense que c'est pas demain la veille qu'on va atteindre l'objectif. On parle de 400 pour 2026. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Faut avoir les permis avec les villes, etc., etc. Puis écoutez bien celle-là. Dans Rosemont, ils ont trouvé 2 endroits pour mettre des locaux pour recevoir nos bouteilles vides. Ils ont le certificat, ou en tout cas le papier de l'arrondissement pour l'occupation. Tu dis, OK, mais maintenant, il faut faire les travaux. Ah, ça, c'est une autre affaire. Fait que, théoriquement, tu as le papier pour opérer le local de collecte, mais tu n'as pas le permis pour faire les travaux qui vont donner au local l'allure d'un centre de collecte. Ça doit pas être si compliqué que ça, mais ça a l'air que oui. Alors, vous pouvez lire ça. Ça, c'est un exemple. D'autre part, pénurie de personnel dans les écoles, de futurs profs qui veulent plus d'accès aux stages en emploi. En disant, me semble que même si on n'a pas complété notre bac, qu'on n'a pas de brevet, mais qu'on est déjà des profs à l'intérieur des écoles, il me semble qu'on pourrait prendre des étudiants, des envoyer faire leur stage et d'élargir de telle sorte qu'ils seraient payés comme des avocats qui font des stages sont payés. Puis en même temps, on a une pénurie. Là, ça a l'air que c'est tellement compliqué que c'est pas possible pour l'instant de faire. Puis je lis dans Le Devoir en plus, on a besoin de psychologues. Je vous dis, je fais pas exprès, là. Mais savez-vous pourquoi on n'est pas capable de former plus de psy? D'abord, un, il faut que ça soit, pour être porteur du titre, il faut avoir un doctorat. Je sais, moi, me faire haïr, mais ça, c'est contestable. Est-ce que ça prend nécessairement? Est-ce qu'une maîtrise ferait pas l'affaire? Ah, les gars. Je sais que l'ordre aime pas ça quand on dit ça. Mais bon, mettons que ça prend un doctorat. Alors là, on a dit, on a besoin de plus de psy, il y a plus de demandes. C'est OK, il arrive quoi? Est-ce qu'on en forme plus? Réponse, non. Pourquoi? Parce que les universités disent qu'ils n'ont pas la garantie d'un financement récurrent. Je peux pas embaucher de profs parce que Québec me dit pas que je peux embaucher des profs. Ils me donnent de l'argent pour 2-3 ans. Qu'est-ce que je vais faire après? Puis Québec dit que c'est pas vrai. Puis la réalité, là, c'est qu'on niaise encore pour créer des postes pour permettre d'avoir plus de profs quand même dans les facultés où on enseigne la psychologie, permettre d'avoir plus de psy qui vont être sur le marché du travail. Rapidement, dans les autres nouvelles, Le Devoir nous dit également qu'il y a un promoteur suisse, Grégoire Führer, et sa conjointe qui ont démarré des petits festivals ici et là, qui en ont un tout petit à Montréal et qui pourraient peut-être envisager d'organiser un festival de spectacle d'humour cet été à Montréal. Il n'est pas trop tard. Sous-entendre qu'il faut que les humoristes, ça leur tente, qu'ils collaborent et que deuxièmement, ça va prendre des fonds publics pour récupérer tout ça. Et j'ajoute également le Globe and Mail. C'est une réflexion qui revient de temps à autre sur les fruits de mer que vous mangez, qui sont souvent le fruit d'exportation, par exemple, de Chine. Même si c'est pas directement pêché dans le territoire chinois, mais ce sont des opérateurs. Et là, on découvre qu'ils exploitent des Nord-Coréens. C'est carrément de l'esclavage. Et c'est vrai, entre autres, pour des bateaux de pêche de crevettes avec des travailleurs des Philippines. L'industrie du fruit de mer est pas ce qu'il y a de plus nécessairement propre et respectueuse de conditions minimales de travail.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est pas un dossier simple qu'on aborde ce matin, mais j'ai vu vos courriels et vous êtes nombreux à vous interroger sur l'impact réel du programme concernant la couverture des soins dentaires pour un certain nombre de Canadiens qui s'implantent graduellement. C'est un projet du gouvernement Trudeau, donc les gens de 65 ans et plus, les gens à faible revenu qui pourront avoir accès à des soins dentaires payés par ce régime fédéral. À Québec, on a dit un instant, la santé, c'est de juridiction provinciale. On n'est pas contre l'idée, mais il y a un manque à gagner. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le patient qui va se présenter dans un cabinet pour obtenir des soins? Docteur Carl Tremblay est avec nous. Il est le président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. Docteur Tremblay, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Je veux juste comprendre comment ça va marcher, ce système-là. Dans le fond, là, c'est quoi? Le fédéral établit maintenant des tarifs puis des coûts pour la couverture de soins dentaires?
Oui, c'est ça. Le fédéral bâtit un programme avec une grille de soins qui seront couverts avec des tarifs associés à ça. Mais les dentistes au privé chargeront leurs honoraires habituels. Donc, personne va obtenir des soins totalement gratuits parce que la grille du gouvernement fédéral est pour la plupart des soins nettement inférieure à notre grille habituelle.
L'écart serait de combien, selon vous?
Ben, ça dépend des soins. Il y a des soins qui, c'est autour de 78-79% de notre grille habituelle et d'autres soins, ça va à 90, des fois même 95% de notre grille habituelle. Alors, ça dépend quel traitement le patient aura besoin puis dans quelle catégorie de revenus il va se situer aussi, parce que vous savez que pour les moins de 90 000 $, les patients vont avoir à payer 60 % pour se rendre à la grille du fédéral. Les moins de 80 000 vont devoir payer 40 % pour se rendre, on appelle ça la cote-part, pour se rendre au tarif de la grille du fédéral. Et les moins de 70 000 de revenus nets auront aucune cote-part à payer pour se rendre à la grille du fédéral, mais devront payer la différence pour arriver à notre grille de tarif habituel.
OK. Prenons le cas du Québec, là, c'est le cas qui nous intéresse. Les gens qui ont des assurances avec l'employeur, vous allez me dire, ils payent, c'est sûr, là, pour puis l'employeur paye aussi. Mais est-ce que ça couvre, moins un déductible, la totalité de vos coûts, de ce que vous chargez?
Bien, normalement, la personne qui a une assurance privée, on lui charge nos honoraires habituels au même tarif que quelqu'un qui n'a pas du tout d'assurance. Il paie le même montant, puis il se fait rembourser la partie couverte par son assurance.
Okay.
Alors que au fédéral, ça va fonctionner un peu de la même façon. Sauf que c'est le dentiste qui va recevoir directement le paiement. Nous, on aurait voulu que ça fonctionne comme une assurance privée et que le dentiste charge les honoraires, se fasse rembourser à 100% par le patient et que le patient puisse recevoir son remboursement directement dans son compte de banque par le programme fédéral la journée d'après ou deux jours après, là, comme la majorité des gens assurés au privé reçoivent leur paiement rapidement.
Docteur Tremblay, aussi...
oui, allez-y.
Non, j'allais dire, croyez-vous sérieusement que le système fédéral peut rembourser la personne en l'espace de 2-3 jours?
Ben, en fait, ils vont faire affaire avec Sun Life, et puis Sun Life est déjà capable de faire ça avec ses patients assurés au privé.
Ben, je regarde des compagnies d'assurance qui gèrent le système de remboursement de médicaments des employés du gouvernement fédéral, c'est le chaos.
Je suis pas au courant si c'est le chaos à ce niveau-là, mais au niveau dentaire...
C'est parce que dans le fond, vous voulez pas être pris avec le trouble, vous voulez me l'envoyer dans ma cour.
Ben, c'est parce que vous comprenez qu'on est pour l'accessibilité aux soins, mais qu'avec le programme tel que structuré, ça nous impose une lourdeur administrative supplémentaire, des coûts supplémentaires aussi qui sont déjà commencés. Hein. On assume déjà des coûts pour ce programme-là, même si on n'a pas encore fourni aucun soin. Vous savez, les patients reportent leur rendez-vous. Ils appellent à la clinique, ils attendent d'être couverts. Et puis là, ben, ça demande du temps supplémentaire à la secrétaire qui avait déjà planifié un rendez-vous avec ce patient-là. Elle doit l'annuler, elle doit en recéduler un autre plus tard, expliquer au patient que pour certains traitements, ça peut causer des problèmes que d'attendre trop longtemps avant d'obtenir son soin. Elle doit trouver ensuite de ça, faire 3-4 appels pour trouver un autre patient disponible dans la plage horaire qui vient de se libérer. Tout ce temps passé, là, c'est du surplus de tâches administratives, puis c'est le dentiste qui paie pour ça, là.
Ce que je comprends, là, puis je vais être le plus clair possible pour nos auditeurs ce matin, là, l'écart entre ce que le fédéral va vous payer et ce que le patient va sortir de sa poche, ça, je comprends que ça varie, là, mais c'est du 20 à 30
%. Oui, c'est ça, exactement.
OK. Donc, faut que je calcule.
Ça peut même être plus si la cote-part du patient est déjà de 40 ou de 60 % pour se rendre au tarif du gouvernement et que le tarif du gouvernement est 20 % plus bas que le nôtre.
OK. Là, la question de mes auditeurs, ça va être la suivante. C'est le fédéral qui paye pas assez ou c'est vous qui chargez trop cher pour qu'il y ait un écart comme ça?
Ben, en fait, c'est un programme du fédéral. C'est le fédéral qui a décidé de produire sa propre grille. On avait dit qu'au fédéral, lorsqu'on a été consulté par le fédéral, qui devait se rapprocher ou payer notre grille en totalité, s'il voulait obtenir vraiment l'accessibilité la plus grande possible. Et ils ont décidé de faire une grille qui était différente et de demander sur leur site Internet aux dentistes d'accepter et de respecter la grille du programme fédéral, ce qui est assez inacceptable. Ça nous place dans une drôle de situation très déplaisante, comme si nous devions, nous autres, assumer le fait qu'ils aient produit une grille nettement inférieure à la nôtre. C'est comme de nous demander de subventionner le programme. Et puis, tu sais, on fait pas ça pour les employés du fédéral ou de Sun Life qui vont gérer le programme. On leur demande pas de diminuer leur rémunération personnelle de 60 ou de 70 %, mais on le fait pour les professionnels de la santé qui vont offrir les soins sur le terrain. Alors qu'on est comme les autres contribuables, on va déjà payer pour ce programme-là via nos impôts. C'est pas normal qu'on nous demande en plus de le subventionner. Les honoraires qu'on charge normalement sont des honoraires justes et raisonnables pour les soins de santé qu'on offre à la population.
Est-ce que les dentistes du Québec vont tous embarquer dans le programme ou c'est vraiment chacun qui va décider? Donc, mon dentiste peut-être va refuser de participer, ce qui fait que ça change rien dans mon cas, là.
Oui, c'est ça. Les dentistes vont décider par eux-mêmes parce que c'est pas un contrat collectif. Comme je vous disais tantôt, c'était seulement qu'une consultation avec le fédéral. Il était libre de prendre ou non nos recommandations. Il les a pas prises dans plusieurs cas, bien entendu. Nous autres, on va produire un tableau, un résumé du programme avec les plus, les moins, pour pouvoir éclairer davantage nos membres, et chacun, dépendamment de sa situation personnelle, va décider s'il s'inscrit, s'il attend ou s'il s'inscrit pas au programme fédéral. Puis à ce moment-là, ben si votre dentiste que vous allez voir depuis plusieurs années décide de pas s'inscrire, ben malheureusement, vous allez devoir vous trouver un autre dentiste.
Selon votre expérience, là, puis quand vous prenez la température de l'eau, c'est quoi le pourcentage de dentistes qui vont pas vouloir s'embarquer dans ce système-là?
Écoutez, on n'a pas de sondage là-dessus. Je pense qu'il y a quand même une bonne proportion des dentistes qui vont y adhérer parce que, en tant que professionnel de la santé, là, on est pour l'accessibilité, puis je pense que c'est un objectif majeur de ce programme-là. C'est pour une fois qu'on a un gouvernement qui établit un programme qui va aider à augmenter l'accessibilité, puis qui va reconnaître que c'est des soins de santé essentiels qui contribuent à une bonne santé globale, qui sont aussi importantes à traiter qu'un otite ou qu'une infection urinaire. Ben, je pense que dans la mesure du possible, les dentistes vont tenter d'y adhérer, mais je connais pas le pourcentage, on va le savoir au fil des mois.
Pour que ça soit encore plus clair, au Québec actuellement, qui a accès à des soins dentaires gratuits?
Ah, très peu de gens. Les enfants en bas de 10 ans qui ont accès à certains soins, qui est une liste très, très restreinte de soins et de matériaux, ainsi que les prestataires de la sécurité du revenu, les gens sur l'aide sociale, qui ont accès à certains soins de base. Et puis, pour vous dire comment c'est pas juste l'argent là, qui empêche l'accessibilité, des fois, c'est que selon les données de la santé publique du Québec, les données les plus récentes, il y a environ seulement 50% des assistés sociaux qui fréquentent le dentiste malgré qu'ils ont des soins de base de couvert, là, comme des examens, nettoyage, des extractions, des obturations et tout ça. C'est certains ont peur des traitements, puis d'autres, pour eux, ils ont pas d'intérêt à aller consulter le dentiste. Alors, c'est pas toujours les coûts qui empêchent les gens de consulter.
Non, ça, c'est vrai, là, je peux comprendre, mais en même temps, j'ai beaucoup de parents qui, dans un contexte où les factures explosent, l'hypothèque, l'épicerie, qui se disent, au lieu d'avoir un nettoyage à telle fréquence, ben je vais réduire, je vais étirer, je vais le laisser faire, m'a passé un an, c'est pas grave. Il y a comme, pas sûr que les gens comprennent l'importance des soins dentaires, puis dans certains cas, l'urgence des soins dentaires, à moins d'avoir mal aux dents, là.
Mais la bonne nouvelle, M. Arcan, c'est qu'avec le nouveau programme, les gens qui vont y avoir accès, les soins d'hygiène vont être couverts, alors qu'avec le programme de la RAMQ, pour les enfants de moins de 10 ans, la prévention et l'hygiène est pas couverte. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui vont y avoir accès. Puis on sait que ça va toucher quand même beaucoup de Québécois, parce que vous savez qu'à la fin de 2025, ça va toucher toutes les tranches d'âge et non pas juste les plus de 65 ans et les enfants de moins de 18 ans et les personnes handicapées. Ça va vraiment toucher toutes les tranches d'âge. Alors, ça va faire une avancée importante sur l'accessibilité des soins. Maintenant, on espère juste avoir suffisamment de main-d'œuvre, de dentistes, d'hygiénistes dentaires pour répondre à cette demande.
OK, merci, Dr. Tremblay. Bonne journée.
Un plaisir.
Au revoir. Dr. Carl Tremblay, le président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. Il faut juste rappeler que le gouvernement du Québec aime pas beaucoup voir Ottawa mettre le nez dans une compétence qui est provinciale, qui est celle du Québec. Et le ministre Roberge dit que ça va coûter 3 milliards au minimum, le 3,3 milliards par année pour le Québec. C'est ce qu'on devrait payer du côté d'Ottawa. Alors, voyez encore, un échange de correspondance à venir entre Ottawa et Québec.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Parlons de taux d'intérêt, de taux hypothécaires. Beaucoup de gens m'écrivent en me disant qu'ils ont renouvelé, que ça leur coûte 200, 300 $ de plus par paiement mensuel. D'autres sont inquiets parce qu'ils renouvellent, par exemple, à la fin du printemps, l'automne prochain. Et on sait qu'il y a une espèce de vague de renouvellement qui arrive. J'en parle avec Sébastien McMahon, qui est stratège en chef économiste senior chez IA Group Financier. Monsieur McMahon, bonjour.
Bon matin.
D'abord, j'essaie de comprendre. Il y a vraiment beaucoup de gens qui arrivent là à la période de renouvellement?
Oui, il y a beaucoup de gens qui arrivent à la période de renouvellement, mais je vous dirais, les hypothèques au Canada, on a tendance à signer ça pour 5 ans. Donc, à chaque année, il y a environ 1/5 des ménages détenant une hypothèque qui renouvelle. Donc, on est à peu près sur un rythme normal, je vous dirais. Les hypothèques à taux fixe, c'est renouvelé, c'est 1/5 des ménages qui ont une hypothèque qui renouvelle aux 5 ans. À taux variable, je vous dirais, l'impact des taux d'intérêt, il y a pas mal déjà derrière nous, là, mais c'est sûr qu'il y a une hypothèque à taux fixe qui sont en train de faire face à des paiements plus élevés.
OK. Prenons un cas de quelqu'un qui arrive cette année, qui doit renouveler. Ça veut dire que s'il a pris 5 ans, à l'époque, il avait quoi comme coup de taux d'intérêt?
Ben c'est ça. Je t'avais regardé ce matin. Le taux moyen au Canada pour un taux fixe 5 ans, dans le moment, c'est 6,4. Mais si on magasine, on peut trouver plus bas que ça. Non? Il y a 5 ans, c'était à 4,6 au début 2019. Donc, c'est une hausse d'environ 1,8 versus ce qu'on avait la dernière fois qu'on avait signé. Là.
OK. Mais d'après vous, quand vous faites les projections, vous regardez ça, là, les gens se ramassent, je comprends que ça dépend de l'hypothèque puis tout ça, là, mais c'est quoi? 200 $, 150, 300 $ de plus par mois?
Oui, je vous dirais que 1,8 de hausse sur un paiement pour un prix médian d'une maison. Donc, si on regarde au Québec, le prix médian, c'est 430 000. C'est environ 400 $ par mois de plus. Si on avait une hypothèque à taux fixe le 5-4, qu'on renouvelle pour une hypothèque à taux fixe cette année. Si on est à Montréal, c'est un peu plus élevé, là, c'est environ 500 par mois. Moi, où je suis à Québec, c'est un peu moins cher, donc c'est environ 350 par mois de plus, donc c'est à peu près ça qu'on peut s'attendre.
Mais ça fait quand même des augmentations importantes, là.
Oui, ça fait des augmentations qui sont importantes, certainement. Les taux d'intérêt sont relativement bas. En décennie 2010, on a été habitué à des taux d'intérêt faibles. Puis, il y a des gens qui auraient probablement pu bénéficier de meilleurs conseils aussi en 2021, début 2022, quand les taux étaient très bas, surtout pour les taux variables. Ça a été tentant d'acheter un paiement mensuel plutôt que de regarder le projet dans son entièreté. Mais l'avantage, c'est que l'économie du Québec, quand même, est relativement bonne. Le marché du travail est serré. Les gens travaillent. La croissance des salaires est au-dessus de l'inflation. Donc, oui, il y a des vulnérabilités, mais quand même, il faut regarder ça dans son ensemble.
OK. Je regardais ce matin, là, c'est le Journal de Montréal qui dit quand les taux d'intérêt sont plus élevés, les banques font plus d'argent parce que le taux qu'on leur paie pour une hypothèque, puis l'écart avec le taux qu'ils nous payent, par exemple, pour un dépôt, ça prend de l'ampleur et les montants sont plus importants. Autrement dit, ma question, c'est est-ce que les banques font plus d'argent avec des taux d'intérêt élevés?
Ben, les taux d'intérêt sont élevés, oui, certainement que les banques font plus d'argent. Hein. C'est ça la raison d'être des banques. Ils vous payent un taux d'intérêt qui est relativement bas sur vos dépôts dans votre compte de banque, puis ils vont prêter à des taux qui sont plus élevés. Là. Donc oui, un environnement de taux d'intérêt plus élevé, c'est tout à fait profitable pour les banques. Là.
OK. Les gros joueurs hypothécaires au Québec, c'est Desjardins, la Banque nationale?
Oui.
Est-ce que j'ai intérêt à aller voir la Banque de Montréal ou la banque ou peu importe l'institution en disant ils sont peut-être prêts à faire plus de compromis pour aller chercher de la clientèle?
Ça, je pourrais pas vous dire exactement, mais je vous dirais que c'est toujours payant de négocier son taux hypothécaire, c'est de s'y prendre d'avance, puis de faire affaire avec un courtier qui va négocier pour vous. Je suis pas certain qu'il y a vraiment une différence dans l'appétit pour le risque là, entre les institutions financières basées au Québec et celles dans le reste du Canada, par contre.
OK. Conseil qu'on vous demande comme ça, une hypothèque qu'on renouvelle en mars 2024, on prend ça à court terme, à moyen terme, on prend ça fixe, c'est quoi la meilleure approche?
Ben, je vous dirais, si vous êtes prêt à prendre un petit peu de risque, signer variable à plus long terme, probablement que c'est un très bon moment parce que la Banque du Canada est sur le point de commencer des coupures du taux directeur. Nous, on pense que c'est en juillet. Il y a d'autres de mes confrères économistes qui pensent que ça va être avant ça, mais ça va commencer à baisser. Si vous voulez la sécurité d'un taux fixe, je vous dirais signer à plus court terme. Signez pas pour 5 ans, signez pour 2-3 ans. Probablement que vous allez faire une meilleure affaire parce que les banques centrales de la planète, on est un peu tous sur le bord de la rivière dans le moment. Puis on dit, c'est qui le premier qui va sauter là, puis qui va aller baisser son taux directeur? Mais la Banque du Canada est un peu comme les autres. Cet été, on devrait commencer à y être.
Merci. Pardon, M. McMahon. Bonne journée.
Grand plaisir.
Sébastien McMahon est stratège en chef économiste senior chez IA Group Finance.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Très bien, regardons la situation à Gaza. C'est important parce que la famine, c'est un phénomène de plus en plus qui touche de plus en plus de gens, au-delà de 500 000 personnes. Le Ramadan qui s'amorce. Je voyais des images ce matin de pèlerins qui voulaient aller prier, qui ont été refoulés par les soldats israéliens. Mélanie Joly, qui est en tournée au Moyen-Orient, dit que le Canada va joindre l'effort humanitaire en faveur de Gaza. Jean-François Lépine est avec nous. Bonjour, Jean-François.
Bonjour, Paul.
Ça demeure extrêmement difficile. Il n'y a pas de trêve. Il y a encore des difficultés d'approvisionnement en nourriture, par exemple.
Oui, puis il y a eu encore en fin de semaine, dimanche, en tout cas, une soixantaine de frappes israéliennes au milieu et dans le sud de la bande de Gaza. Donc, c'est 80 morts et tout ça. Ça continue. Ce à quoi Mme Joly dit que le Canada veut participer, c'est cette idée d'un corridor humanitaire maritime qui partirait de l'île de Chypre en Méditerranée, où toute l'aide humanitaire serait acheminée pour s'en venir par bateau vers la bande de Gaza pour que les denrées arrivent plus rapidement parce que les camions attendent, on le sait, par centaines, parce que les Israéliens inspectent chaque camion, ça prend peut-être délibérément, d'ailleurs, des jours et des jours, le filet de camion était trop mince. On a vu récemment aussi, puis on le voit encore là, ces jours-ci, plusieurs pays participent à ça, des largages de vivres. Mm-hmm. Mais c'est une catastrophe. Je ne sais pas si tu as vu, Paul, les images de ça.
Les gens se battent pour...
D'abord, c'est dangereux. Les gens se battent pour être les premiers à arriver, mais les caisses s'éventrent. Les gens sont là à ramasser à terre des denrées et tout ça. Et donc, c'est une catastrophe. Tu l'as dit, il y a plus d'un demi-million de Gazaouis qui sont au bord là, d'une vraie crise de famine. On a vu les images d'un jeune garçon de 10 ans en fin de semaine complètement émacié. C'est un vrai problème. Et la façon dont ça fonctionnera, là, c'est que Israël sera même à Chypre pour inspecter les navires avant qu'ils partent. Et ça, c'est à court terme. C'est avant le projet américain dont je parlerai tout à l'heure, là, de construire un vrai port flottant à Gaza éventuellement. Mais ça va prendre des semaines. Donc l'idée, il y a un premier navire, entre autres, qui s'appelle Open Arms, un navire espagnol. Les Espagnols sont extrêmement généreux dans tout ça, il faut le dire, là, qui est prêt à partir. Ils traînent une barge sur laquelle il y a 200 tonnes de vivres et tout ça. Il va s'en venir. C'est une barge de débarquement donc qui arriverait sur la plage, ouvre la barge et on peut décharger le matériel. Est-ce que les Israéliens bloquent encore ça? Bref, ils n'ont pas réussi à quitter l'île. Et c'est une barge qui est remplie par des organismes privés pour l'instant, dont un organisme, Paul, dont je veux parler à nos auditeurs parce que c'est vraiment intéressant, qui s'appelle World Central Kitchen. C'est un organisme qui a été fondé par un chef cuisinier d'origine espagnole qui s'appelle Andrés, j'oublie son nom.
José Andrés,
excuse-moi, qui est l'ancien, qui a été chef au fameux restaurant El Bulli.
Étoilé
et tout ça, qui est aujourd'hui fermé. Et il a fait cela en Ukraine. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prépare des repas. C'est des repas en quantité énorme et qu'on achemine directement sur place. Donc, les gens se nourrissent plus rapidement. Et encore une fois, toute cette initiative-là, c'est parce que le reste ne fonctionne pas, tous les autres canaux de distribution. Et le défi, même quand les Américains vont bâtir leur port sur place, donc c'est un port flottant, il y a 1000 soldats américains qui arrivent là, sur un immense navire, barge lui aussi, et qui vont construire cette infrastructure-là. Le défi sur place à Gaza, c'est comment on distribue cette nourriture-là quand elle arrive. Il n'y a pas de policiers du Hamas. Il y a pas, les Israéliens, quand ils font ça, c'est, on l'a vu, la catastrophe. Ils ont tiré sur des foules il y a quelques jours à peine. Donc, il y a un problème de distribution sur place. Et donc, c'est un problème. Et tout ça se passe, tu l'as dit, tu l'as évoqué, au moment où le Ramadan commence. Le Ramadan, c'est un mois de prière, mais c'est aussi un mois de rassemblement. Hein. Donc, les musulmans se rassemblent entre eux.
Et on parlait de déplacement à Jérusalem, bien ouais. sûr, mais ailleurs aussi de dizaines de milliers de pèlerins. Là.
Tout à fait, tout à fait. À Jérusalem, c'est un problème, là, parce que, imagine, Paul, pendant un certain temps, il y a un ministre de la Sécurité en Israël qui est un colon d'extrême droite qui a été condamné dans le passé pour des gestes violents à l'endroit des Arabes palestiniens. Ce personnage-là, Itamar Ben-Gvir, il a proposé qu'on empêche aux musulmans de Cisjordanie, les Palestiniens de Cisjordanie musulmans, de se rendre à la mosquée Al-Aqsa, qui est le troisième lieu saint de l'islam. C'est une magnifique mosquée à côté de la vieille ville de Jérusalem. C'est aussi un lieu saint pour les Israéliens et les Juifs. C'est ça qui est le problème aussi. Il y a le mur des Lamentations, mm-hmm. qui est un des murs de cette mosquée-là. Et il y a eu souvent des heurts pendant le mois. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un mois de prière, mais c'est un mois aussi de rassemblement. Donc, quand on se rassemble, on a comme, si on a des frustrations, entre autres, c'est arrivé à plusieurs reprises que le Ramadan, dans plusieurs pays, on craint ça, par exemple, en Égypte, où les difficultés économiques sont terribles, qu'on se serve du prétexte du conflit à Gaza, israélo-palestinien à Gaza, pour justement que les foules se montent et que, après la mosquée, par exemple, quand on sort de la mosquée par centaines de milliers, ben là, les heurts commencent avec les forces de sécurité et tout ça. Ça pourrait se produire là, ça pourrait se produire au Liban, ça pourrait se produire en Jordanie. Le roi de Jordanie a peur de ça aussi. C'est pour ça qu'on voulait absolument une trêve, hein, pour qu'il n'y ait pas de prétexte pour que les choses s'enveniment. Mais c'est donc extrêmement délicat, le mois du Ramadan qui s'ouvre. Même le Hamas a appelé aujourd'hui là à manifester autour de la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem. Donc c'est à voir. Puis à Gaza, c'est un peu absurde quand on y pense. Le mois du Ramadan, c'est un mois de jeûne. Ces gens-là ont rien à manger. Comment tout ça va se gérer? Il faut dire que aussi lors du Ramadan, dans le monde musulman, c'est le soir qu'on mange, donc quand le soleil se couche. Et souvent, d'ailleurs, ce qui est un peu absurde dans un sens, pendant le mois du Ramadan, les gens consomment plus qu'avant parce que le soir, ils ont tellement faim qu'ils mangent. Et ça se passe comme ça dans plusieurs pays. Mais à Gaza, quelle va être la situation de ce pauvre peuple-là pendant le mois du Ramadan? C'est une grande question. En attendant, il faut le mentionner, le président Biden, au cours d'une entrevue à MSNBC en fin de semaine, a attaqué littéralement Netanyahou, le premier ministre israélien, en disant qu'il nuit à Israël plus qu'il n'aide. Et il a dit « Ce qu'il fait, c'est le contraire de ce à quoi on s'attendrait d'Israël. C'est une erreur. » Donc, il y a beaucoup de...
Et Netanyahou lui a répondu par la suite.
Oui, ben, il lui a répondu qu'il a l'appui de sa population et tout ça, ce qui n'est pas nécessairement vrai. On voit la population beaucoup manifester contre Netanyahou, mais ça illustre aussi cette espèce de position de contradiction là, dans laquelle se trouve Washington, le président Biden. C'est qu'on arme depuis le 7 octobre Israël. On parle de 10 milliards d'aides militaires depuis le début pour qu'Israël ait les moyens de, entre guillemets, se défendre. Et comment, dans cette situation-là, les États-Unis peuvent-ils jouer un rôle de médiation ou un rôle pacifique ou d'aide humanitaire? C'est la contradiction de Washington.
Bon, on parle de la famine à Gaza, oui. mais la famine dans le monde est un problème réel. Les Nations unies en ont fait une priorité, puis on s'aperçoit que malgré les efforts, oui. les sommes investies, c'est un problème qui est réel pour des centaines de millions de personnes.
Oui, brièvement, mais ça vaut la peine de le mentionner, entre autres, dans le New York Times en fin de semaine, Alex DeWall, qui est un personnage très important qui dirige la World Peace Foundation, qui est une fondation qui existe depuis 1910 à Boston, et qui a dit on a fait une erreur de prévision. On pensait qu'on avait on allait graduellement régler ce problème-là. Deux chiffres. En 2016, il y avait 130 millions de gens qui avaient besoin d'aide d'urgence, hein, et on prévoyait que ce nombre-là allait diminuer au cours des années suivantes. Donc, 2016, 130 millions. Aujourd'hui, c'est 363 millions de gens. C'est 180 fois plus dans 12 pays et territoires du monde, en particulier à Gaza. Pourquoi? Changement climatique, mauvaise récolte, problème de chômage, donc problème de moyens pour acheter de la nourriture, la hausse des prix des aliments. J'en ai beaucoup parlé depuis la guerre en Ukraine, le coût des céréales. Mais surtout, Paul, les guerres où on utilise la faim comme arme de guerre. C'est les deux tiers des gens qui souffrent de la famine dans le monde qui sont au cœur de conflits, donc où on utilise la faim. Il y a des gens qui accusent Israël d'affamer pour exterminer les Palestiniens. Je dis, il y a des gens qui le disent. Bref, l'idée d'utiliser la famine comme arme de guerre pour pousser les populations à s'en aller, à s'exiler, tout ça. On parle donc problème de famine en Afghanistan, en Syrie, au Mali, en Corée du Nord. Hein, ça, on ne connaît pas beaucoup la situation, mais il y a une situation là délicate. Mais aussi, il y a 5 pays autour de la mer Rouge, là. On a beaucoup parlé dans le passé des famines en Éthiopie, la corne de l'Afrique. Mais là, c'est des pays où il y a de la famine. Là, c'est l'Éthiopie, Soudan, le Soudan du Sud, la Somalie, le Yémen. 5 pays limitrophes autour de la mer Rouge qui ont des problèmes de famine. Alors, c'est un problème extrêmement grave, d'autant plus que, pour toutes sortes de raisons, l'aide humanitaire, les pays qui contribuent de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'ils ne font plus confiance aux réseaux de distribution, aux pays qui accueille l'aide, où il y a de la corruption, il y a du détournement de l'aide. Alors, c'est un dilemme. On réduit l'aide, puis en même temps, les besoins augmentent.
Parlons d'Haïti, évidemment, parce que c'est le chaos, bien sûr, les gangs armés qui contrôlent pratiquement la totalité du territoire de la capitale, l'aéroport, le port également. Il y a l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, Bob Rae, qui va participer à une réunion d'urgence. On tente de trouver une solution de compromis là pour mettre fin à ce chaos.
Ouais, c'est les 15 pays de la communauté des Caraïbes, hein, des chefs de gouvernement et d'État des Caraïbes, qui ont convoqué d'urgence cette réunion-là à laquelle M. Rae participe. Mais il y a un dilemme, là. On ne sait pas trop quoi faire avec cette situation-là. D'abord, premièrement, il y a beaucoup de gens qui disent que jamais ça n'a été à ce niveau de violence-là depuis des décennies. Donc, il faut imaginer là, la capitale Port-au-Prince qui est envahie, contrôlée par des milices qui se sont attaquées. Et depuis le fameux saccage de la prison, la plus grande prison du pays, la libération de milliers de prisonniers violents, etc., etc., ben là, on s'attaque au poste de police, on s'attaque à tous les symboles du gouvernement, même le palais présidentiel. Résultat, les gens ne sortent plus. Il y a des problèmes d'approvisionnement en nourriture, approvisionnement en eau, des problèmes de salubrité publique parce qu'on dit que les corps, les gens qui sont abattus sur les routes sont laissés sur place. On a vu que souvent, on essaie de brûler les corps pour éviter qu'il y ait... Mais il paraît que dans les quartiers, évidemment, je suis pas sur place, mais dans les quartiers où c'est extrêmement violent, il y a des odeurs nauséabondes à cause des corps qui sont là sur place et qui sont pas ramassés. Il y a personne qui s'occupe de morgue et tout ça. Le problème, c'est que il y a un vide gouvernemental comme jamais on a vu.
Premier ministre est toujours
Le premier ministre, Ariel Henry, lui, est à Porto Rico. Il ne peut pas atterrir à son propre aéroport parce que sa sécurité n'est pas garantie. Les rebelles lui demandent de quitter le pouvoir. Pas seulement les rebelles, d'ailleurs. La conférence aujourd'hui en Jamaïque, hein, les gens des Caraïbes, le Canada, les États-Unis demandent à Ariel Henry de quitter, demandent aux politiciens haïtiens de former un gouvernement d'unité nationale. Évidemment...
Le Canada rejette encore l'idée de déployer des soldats canadiens
sur place.
Oui, ça
c'est ferme. Il n'y aura pas de soldats. Le Canada offre de l'argent, entre autres 80 millions de dollars. Si cette fameuse mission là, de policiers kenyans, au moins un millier de policiers qui viendraient prêter main forte à la police haïtienne, le Canada contribuerait comme d'autres pays. Mais comment organiser une mission comme celle-là quand le gouvernement n'est même pas là pour avoir un plan? Il n'y a pas de ministres du gouvernement qui sont sur place, qui parle à qui que ce soit. Donc, le gouvernement, c'est zéro moins que zéro. Le premier ministre, comme on l'a dit, peut même pas revenir. Il peut même pas atterrir en République dominicaine, sur le pays qui partage l'île avec Haïti. Il pourrait s'en venir en voiture après. La République dominicaine ne veut pas. Donc, c'est un problème inouï. Entre-temps, il y a 350 000 Haïtiens déplacés. Tu me diras que c'est pas beaucoup si on compare à Gaza, par exemple, où il y a... on le dit, 1 400 000 déplacés, où la situation est terrible. Mais on dit quand même qu'il y a 1 million de gens qui ont faim à Haïti, dans tout le pays, mais surtout autour de la capitale. C'est un problème qui se déroule dans notre cour, comme d'habitude, puis on n'arrive pas à le résoudre. Alors, c'est une crise, et d'autant plus que l'histoire des Kenyans, il faut rappeler qu'en Haïti, la population se méfie beaucoup des missions étrangères. On a parlé de la MINUSTA, ou encore aujourd'hui, les Haïtiens disent que le choléra s'est répandu à cause des soldats népalais. C'était tout un dossier à l'époque.
Ouais, ouais.
Il y a eu des records de viols, le traitement horrible des femmes haïtiennes par les casques bleus. Ça a été tout un scandale international. Bref, je ne sais pas ce qu'on va décider aujourd'hui. Est-ce que les gens peuvent décider en Jamaïque aujourd'hui? Mais c'est un réel problème.
Un mot sur l'économie canadienne. Par rapport à l'ensemble de la planète, on se situe de quelle façon?
Oui, je trouve ça intéressant à la veille du budget du Québec. Hein, parce que le Canada, pour beaucoup de Canadiens, on est encore parmi les pays les plus riches du monde, les 10 pays les plus riches du monde. Or, c'est complètement faux. En fait, le Canada ne fait plus partie des pays les plus riches, comme on le croit. La mesure de ça, c'est le partage du produit national brut par habitant. Ça, c'est la mesure de la richesse collective des gens. Hein, d'accord? Alors, on était sixième au monde en 1981, derrière des pays comme la Suisse, le Luxembourg, la Norvège, les États-Unis et le Danemark. À l'époque, aujourd'hui, on est 15e. Il y a des pays qui nous ont devancés, comme la Belgique, l'Irlande, l'Islande, l'Autriche, qui n'étaient pas des pays particulièrement riches. Et pourquoi on a fait ce recul-là au fil des ans? Parce que c'est au cours des décennies, là, dans le dernier quart de l'an dernier, là, 2023, on avait atteint le niveau le plus bas depuis 2014, donc on réduit graduellement. Pourquoi? Parce qu'au Canada, on a des problèmes de productivité. On travaille. En termes d'heures travaillées, on travaille. Le taux de chômage est bas, on le sait. Mais on a des problèmes de productivité. Les salaires et les investissements sont bas. Les entreprises ne réinvestissent pas beaucoup comparé à d'autres pays. Notre écart avec les États-Unis même s'élargit.
Il n'y a rien qui indique que la tendance va s'inverser.
Il n'y a rien qui indique ça, malheureusement. C'est pour ça que je dis à la veille du budget, là, ouais. Le gouvernement devrait penser à ça parce qu'encore une fois, c'est notre richesse collective qui est en jeu. En d'autres termes, notre population augmente sans arrêt, mais notre économie, la valeur de notre économie baisse. Ça veut dire que collectivement, on est de plus en plus pauvre. Alors, c'est un mythe qui est un peu dégonflé.
Merci, Jean-François. Bonne semaine. Très bien. Ce qui a fait beaucoup, beaucoup jaser en fin de semaine, c'est la photo de la princesse Kate, une photo avec ses enfants qui a été diffusée à l'occasion de la fête des mères. C'était hier la fête des mères, donc en Angleterre. Et il y a les agences de presse qui ont refusé de diffuser la photo parce qu'elle a été retouchée. Ce matin, Kate Middleton a présenté ses excuses. Elle prend la responsabilité, appelons ça du Photoshop. Marie Billon est avec nous, journaliste, évidemment, pour RTL au Royaume-Uni. Marie Billon, bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être nous décrire d'abord la fameuse photo controversée. C'était quoi le problème?
Alors, en gros, la photo, c'est Kate et ses trois enfants. Kate est assise sur une chaise et ses trois enfants sont autour d'elle. Charlotte et George à ses côtés et elle les tient par la hanche. Et Charlotte et Louis, pardon. Et George, le plus grand, est derrière elle et l'enlace par derrière. Il sourit, tout le monde a l'air content, etc. Et puis très rapidement, en fait, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens se sont dit, mais c'est quand même bizarre. Il y a des choses qui sont un peu étranges, notamment l'alignement de la main de Charlotte par rapport à son pull. Clairement, il y a un souci par là. Il y a des endroits près des cheveux de Kate où c'est clairement pas très clair, un peu flou. La main de Louis aussi est un peu étrange. Les bras de Gaud de George sont spécialement longs. La fermeture est claire sur le gilet de Kate se dédouble et change de couleur à un moment donné de manière assez bizarre. Donc voilà, plein de petits détails comme ça. Ils ont commencé à se poser la question. Les agences de presse ont commencé à regarder ça de près. Ils ont vu effectivement qu'il y avait eu des modifications et ont donc décidé, pour pas toutes, mais pour la plupart, de les retirer de la circulation. Par contre, Kensington Palace n'a pas retiré cette photo de la circulation et a fait silence radio complet, même plus que d'habitude. Des fois, il parle un peu en sous-main, mais là, pas du tout, jusqu'à ce que, justement, Kate, princesse de Galles, fasse une déclaration à l'écrit sur les réseaux sociaux en disant: en tant que photographe amateur, c'est vrai que de temps en temps, je fais des expérimentations avec la modification des photographies. Je suis désolée si ça a créé de la confusion avec la diffusion de notre photo de famille hier. Bonne fête des mères à tout le monde. En gros, la Kate s'excuse d'avoir modifié la photo, de l'avoir mal fait et que ce soit vu. Mais finalement, le problème reste entier. Pourquoi est-ce que cette photo a été modifiée? Est-ce que c'est vraiment juste du cosmétique? Et c'est très possible que ce soit ça. Toutes les photos sont cosmétiques. Esthétiquement un petit peu embellie, mais pourquoi par exemple embellir les mains de sa fille? Pourquoi allonger éventuellement les bras de George? Ou peut-être qu'il a juste des longs bras, on ne le voit pas très souvent, le petit George. Donc voilà, il y a encore beaucoup de questions qui sont ouvertes.
Oui, j'allais vous dire, j'ai même vu des gens spéculer sur l'état de santé de Kate Middleton, qui, on le sait, est hospitalisée. Bon, il y a un mystère un peu qui autour de sa maladie. Puis là, des gens disent, on a joué avec l'image pour donner l'impression qu'elle était encore en pleine forme.
Oui, bah il y a cette alors. Aucun des médias n'a fait comprendre qu'il y avait des chances qu'elle soit complètement photoshopée, complètement générée avec l'intelligence artificielle, cette photo, et que Kate n'aidait pas avec ses enfants. Aucun média n'a suggéré ça, mais évidemment sur les réseaux sociaux c'est autre chose, et beaucoup ont suggéré effectivement que c'était une vieille photo ou une vieille photo de Kate avec les enfants autour qui ont été rajoutés, etc. Enfin, tout ça c'est des spéculations d'amateurs complets, mais Kensington Palace, qui est donc le palais qui est responsable du prince et de la princesse de Galles, de Kate et William, comme je vous disais, avait fait silence radio complet jusqu'à ce matin. Après la déclaration à l'écrit de la princesse de Galles, Kensington Palace a dit à ses contacts que la famille avait passé la fête des mères qui était hier au Royaume-Uni ensemble et qu'ils avaient passé une merveilleuse journée. Donc une manière de dire non, Kate est assez bien pour être avec ses enfants et assez bien pour passer du bon temps en famille. Évidemment, par exemple, il y avait quelqu'un sur Instagram qui a écrit « On veut des preuves ». Et cette photo qui était censée être une preuve s'est révélée être tout sauf une preuve. Et donc, les spéculations vont continuer, effectivement, bon train. Parce que on s'inquiétait déjà que Kate soit assise et pas debout sur cette photo. Mais là, on se demande si vraiment il y a quelque chose d'un peu plus. Tant que Kensington Palace ne dira pas ce dont elle souffre, les spéculations resteront. Par contre, avec Kensington Palace, reste sur sa ligne. C'est une question d'affaires privées, ce dont souffre la princesse de Galles. Le roi est roi, c'est pour ça qu'on a dit de quoi il souffrait, et c'était d'ailleurs son choix. Mais la princesse de Galles n'a pas de rôle constitutionnel, sa santé reste de l'ordre du privé et n'a pas à être partagée avec les Britanniques, même s'ils sont curieux.
Merci Marie, bonne journée. Marie Billon, qui est journaliste correspondante pour RTL au Royaume-Uni.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.